de tenir bon la rampe. Et vous signalez, si vous ne connaissez pas, de regarder sur Internet Laborit, L-A-B-O-R-I-T. C'est un biologiste du comportement qui est décédé, mais il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs, plein de documents, notamment une vidéo sur l'éloge de la fuite. Et je pense que c'est en droite ligne avec ce que j'ai entendu cet après-midi. Ça serait formidable que vous penchiez là-dessus et de le faire savoir à tous.
Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai vu un documentaire étonnant à la télévision, un documentaire qui reprend toutes les choses un peu surprenantes à la surface de cette planète, et notamment comment des gens se nourrissent en Afrique. Et il présentait l'exemple de trois grands chasseurs noirs qui allaient piquer la bouffe de plusieurs lions. En fait, il y avait un groupe de lions qui venait de chasser un gnou et qui était en train de le dépecer, et il y avait 5-6 lions affamés qui étaient là. Et donc, il y a ces trois types qui arrivent avec des arcs et des flèches et qui s'approchent doucement, et qui, à eux trois, font fuir les lions qui sont en train de becquer. C'est-à-dire, trois types avec des arcs et des flèches arrivent à chasser plusieurs lions et à leur piquer un cuisseau de gnou et à repartir vite fait le temps que les lions se rendent compte qu'ils ont été bernés. Mais à trois, ils arrivent à faire la nique à une poignée de lions qui, un seul, suffisait pour les manger tous les trois. Donc, est-ce que socialement, on peut pas faire un parallèle? Est-ce qu'une poignée de gens, un groupe de militants, ne peut pas faire la nique à une autre poignée de gens qui, entre guillemets, tiennent le pouvoir, en les bernant, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours très futés. Donc voilà, stabilité, et il y a peut-être des choses à faire entre le pot de fer et le pot de terre. C'est pas toujours établi comme ça, et les choses peuvent changer. On y croit, et on y va. Ciao.
Eh ben nous aussi, on y croit, et on y va. Merci pour tous ces messages. Chers AMG, auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales, aujourd'hui, on va passer une heure avec une femme remarquable qui s'appelle Monique Hervaux. On l'avait rencontrée dans la Basse, si j'y suis, il y a une dizaine d'années, une première fois, et on la retrouve là, 10 ans après, quasiment là où on l'avait rencontrée la première fois. C'est-à-dire là où elle vit, dans une caravane. Elle vit dans une caravane, au nord de Paris, à une centaine de kilomètres de Paris. Elle est née en 1929, Monique Hervaux. Et elle a une vie tout à fait singulière. Comment on pourrait la résumer? Solidaire et engagée. Alors voilà deux mots complètement démonétisés, discrédités. Aujourd'hui, engagé, ça veut dire un chanteur engagé, un intellectuel engagé, un journaliste engagé. Un journaliste engagé, c'est pas tout à fait un journaliste. Un intellectuel engagé, pas tout à fait un intellectuel. Un chanteur engagé, c'est parce qu'il fait son marketing et qu'il est généralement pas très bon. Mais il y a eu un moment où ces mots-là avaient une certaine signification. Quant au mot « solidaire », alors ça, c'est un mot qui est largement discrédité. Mais qui dit que tout ça est discrédité? Le mot « l'engagement », qui dit que cela est discrédité? La solidarité, qui dit que cela est discrédité? C'est une certaine doxa, c'est-à-dire un discours ambiant, dominant, véhiculé par les médias qui disent cela. En vérité, l'engagement existe bel et bien, pas forcément avec grand tapage, pas forcément sous la forme de personnages qui arrivent dans votre télé tout maquillés et tout pimpants et tout mondains et tout narcissiques. Pas nécessairement, c'est pas nécessaire. Voilà pour l'engagement. Et la solidarité, ben, elle existe bel et bien parce que elle continue d'exister bel et bien. Parce que une planète, une humanité sans un minimum de solidarité exploserait, pèterait à tout moment. Sauf qu'il y a eu des époques, des moments de notre histoire relativement récente, mettons les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, où la solidarité était différente, avait une autre signification. Et elle avait une autre signification, elle a été différente dans les années qui ont suivi à travers un certain nombre de démarches de jeunes gens dont Monique Hervaux faisait partie, qui se sont engagés, comme on dit, dans ce que, encore un autre mot complètement discrédité dans l'humanitaire, le mot n'existait pas encore. Et aujourd'hui, donc vous avez compris, 80 quelques années, Monique Hervault est toujours là, bon pied, bon œil, avec son expérience. Elle est restée 12 ans, elle va nous dire, je crois, dans le bidonville de la folie à Nanterre, le fameux bidonville où ont survécu des Algériens, ce qu'on n'appelait pas encore des Algériens. C'était les Français musulmans d'Algérie, les FMA, qui étaient là dans ce bidonville. Il y avait d'autres bidonvilles. On en a parlé assez souvent dans la basse, si j'y suis. Et Monique Hervault a vécu parmi ces Algériens en lutte, en résistance, et qui simplement aussi travaillaient dans des conditions difficiles, et vivaient surtout dans des conditions difficiles. Elle a vécu avec eux, parmi eux, pas du tout pour s'héroïser, pas du tout, mais pour témoigner, pour les soutenir, pour les aider, et pour témoigner. Et son témoignage est magnifique. Elle a publié, il y a une dizaine d'années, un ouvrage qui s'appelle « Chronique du bidonville » avec toute son expérience. C'est une très bonne photographe, on verra pourquoi. Elle a même enregistré, vous allez entendre des sons qu'elle a enregistrés. Et c'est un témoignage extrêmement précieux. Bien souvent, ceux qui sont dans la solidarité, dans l'empathie, faut bien le reconnaître, sont un peu aveugles. Ils sont, voilà, cette empathie-là. Eh bien non, c'est pas le cas de Monique Hervault, qui est restée extrêmement lucide, si bien que ce témoignage qu'elle avait publié une dizaine d'années est extraordinairement précieux au point d'intéresser beaucoup d'historiens qui travaillent à partir de son témoignage, de ses témoignages. Mais surtout, évidemment, c'est un morceau de mémoire et de solidarité avec lequel on va traverser cette heure jusqu'à 16 heures de là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Allô là-bas, sous les toits, j'y suis moi. Il y a 3 jours, petit galop, tout en haut. Tout en harnais, première équipe, retirer les filets métalliques, les aristos de là-haut. Depuis, on dématte, on désingue, l'échafaudage, sans âge, comme moi. Tout empilé, sagement plié, le zinc usé, où qu'il ira. À vous de chercher, vous êtes fait pour ça. Le sur-mesure, c'est pas que les toits, mais ce jour-là, c'est ma radio à moi. Pour les étoiles, suffit de regarder, et plus on regarde, plus on en voit. Terrasson, terrasson, le méchant à l'eau, fini les brisis, brisons-la.
Bonjour et bonne année à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. Le café repère de Tréguier, dans les Côtes d'Armor, redémarre ce soir à 19h, toujours au café L'Aigle Noir. Le thème de la soirée, notre brillant système financier. Nous parlerons monnaie, dette, spéculation, bourse, etc. Donc à ce soir, 19h, au café L'Aigle Noir, 17 rue Pelletier, à Tréguier, dans les Côtes d'Armor.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Le prochain repère de là-bas si j'y suis de Marseille aura lieu ce jeudi 12 janvier à 19h30 à l'Équitable Café situé sur le cours Julien de Marseille. Yannis Yoluntas, philosophe et correspondant en Grèce de Ciné Mensuel, nous parlera de ce qui se joue en Grèce actuellement. Le groupe Talimania Xenia nous proposera quelques ponctuations musicales. Ce repère s'inscrit en ouverture du festival Solidarité avec le peuple grec, puisque le lendemain à 20h, Yannis et Talimania Xenia seront au point de bascule. Bonne journée à tous.
On est venu en France parce qu'on était malheureuse en Algérie, alors qu'on a perdu notre papa et puis on avait...
Octobre à Paris, 1962.
Mon frère, il était là. Il est venu pour suivre ses études. Alors on est venu, il nous a dit qu'il avait une maison. Et puis on ne savait pas qu'il y avait des bidonvilles à Paris.
C'est des gens qu'on a abandonnés. Et même abandonné sur le plan complètement social, j'arrive pas à comprendre. Sauf qu'au fond, on est très raciste. On tourne toujours autour de ça, en définitive.
Bon, est-ce que vous souffrez aussi du manque de place ?
Monique Hervault.
Regardez là, vous allez voir, vous constaterez vous-même.
Nanterre. 1966.
C'est la trouvée, 6 mètres carrés.
Une chambre.
Une chambre.
Oui.
Pour, vous êtes combien à vivre? 7 personnes.
7 personnes.
7 personnes.
Boîte cancer.
Ah oui. Oh, la vie, c'est trop dur quand même.
Et il y avait un Algérien qui tenait une échoppe qui s'appelait Dalouche. Et là, j'ai vu rentrer deux flics. J'ai entendu deux balles de tirer. Et puis, ils sont partis. Avec les femmes, on a regardé. On a vu qu'il était mort.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Monique Hervault, solitaire et engagée.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors Monique Hervault, là on se trouve chez vous, c'est à une centaine de kilomètres à l'est de Paris. On se trouve dans un camping. Et puis là, on est autour d'une petite table. On est installé dehors. Il y a un petit vent un peu frais. C'est le début de l'automne. Et ça, c'est votre caravane, là. Elle est très ancienne.
Oui, elle est très ancienne parce que ça fait déjà la deuxième caravane. L'autre avait des fuites au toit et là, c'est une caravane que j'ai pu récupérer qui allait à la casse. C'est difficile à expliquer parce que j'ai une vie de choix qui est très particulière. Ce qui est matériel m'importe peu dans la mesure où j'ai toujours choisi de faire quelque chose envers et contre tout, et malgré que je n'avais au départ aucun bien financier, aucune ressource. Donc je m'arrange suivant les circonstances. C'est pas d'être sur un camping ou dans une caravane qui m'importe, c'est la possibilité de pouvoir continuer à témoigner de tout ce que j'ai connu par rapport à toute l'immigration depuis maintenant quasiment une soixantaine d'années. Donc c'était un choix de vie. Je vais laisser beaucoup d'autres choses. Et ce choix, c'est pas non plus, des fois, des gens pensent que je me sacrifie, mais absolument pas du tout. Je me trouve très bien quand on a un toit sur la tête. Ça suffit.
Alors tendez l'oreille. Vous entendez? Vous entendez ce petit garçon? La maman? Voilà le petit garçon. Et bien ce petit garçon, ce bébé, aujourd'hui, il a 47 ans. Oui, il a 47 ans. Ces documents ont été enregistrés il y a 47 ans par Monique Hervault. Où ça? À La Folie, l'un des quartiers du bidonville de Nanterre. C'est peut-être un auditeur aujourd'hui, hein, de 47 ans, qui est né dans ce bidonville à cette époque-là. On a déjà évoqué à plusieurs reprises ce bidonville de Nanterre, à chaque fois qu'on évoque évidemment la guerre d'Algérie en France, le 17 octobre 1961. Et cette année, il se pourrait bien que cette mémoire, s'invite dans la campagne présidentielle. Oui, 50 ans. 50 ans, Sharon. 50 ans, l'indépendance de l'Algérie. 50 ans d'une mémoire qu'on voudrait bien maintenir sous le tapis. C'est un grand, grand malaise, toujours, qui persiste, que cette décolonisation, que cette colonisation, et que cet épisode de la décolonisation avec son cortège d'horreur, de torture et de mépris pour un peuple que la France, qu'une certaine France avait colonisé. Le bidonville de Nanterre, il y avait un autre à Aubervilliers, il y en avait d'autres. C'était dans une époque aussi où la France était infiniment plus pauvre qu'aujourd'hui, où beaucoup des Français de la classe populaire, des catégories populaires, comme on disait, n'en menaient pas large. On souffrait, c'était difficile. Mais la France relevait. On allait vers des jours meilleurs. Et on en avait tous, surtout dans les milieux populaires, conscience et confiance. Ici, c'était autre chose. La guerre d'Algérie était en Algérie, mais aussi en France. On en a parlé souvent. Et dans ce bidonville de 30, 40 000 Algériens, on va dire, vivaient, survivaient, parfois en famille, avec le FLN qui était très présent dans cette cité, puisque, on a eu l'occasion de le dire souvent, c'est dans ces bidonvilles, dans le monde, dans le milieu des travailleurs algériens en France, que le FLN trouvait, par des moyens assez coercitifs souvent, son financement. Voilà un peu le décor, voilà un peu l'histoire. Alors il y avait des Français extrêmement rares qui venaient là. Pas si rare que ça, les flics et les patrouilles diverses et variées, mais je pense aux Français qui venaient soutenir par sympathie, par soutien aussi, ces Algériens qui vivaient là. Monique Hervault en faisait partie, elle n'a rien oublié de cette époque, elle a pris des notes. Elle a publié le livre que j'évoquais en commençant, Chronique du bidonville, qui constitue aujourd'hui un document, une mémoire solidaire et engagée. Jusqu'à 16h, là-bas si j'y suis, Monique Hervault.
Grise. Un jour en criant
n'ayez pas peur.
On a vu la grue qui a tout démoli en un quart d'heure. Là-bas vous aurez un jardin et il y aura une salle de bain. Ils avaient construit la cité, ce paradis qu'on devait habiter.
Et à peine arrivé on a refait les couleurs. Ça n'a pas plu au blaireau, ça n'a pas plu et dans l'heure.
On a vu se pointer quelques malheurs sans vêtir. Un éducateur qui nous ont dit c'est pas votre maison.
Pas votre maison,
non non non,
pas votre maison. Mais nous on avait déjà
tombé la cloison.
Il y avait du soleil et du soleil
à l'époque.
Il y en avait dans ma chemise. Il y en avait à l'époque du soleil à l'époque. Et la vie n'était pas grise. Il y en avait.
Alors moi, je suis venue vous voir aujourd'hui parce que cette année, ça va faire 50 ans que l'Algérie est indépendante, 50 ans que la France a perdu cette guerre d'Algérie. Et cette guerre, on l'oublie souvent, s'est aussi déroulée sur le sol français, notamment à Paris et dans toute la région parisienne. Et vous, Monique Hervault, vous êtes une des rares Françaises à avoir vu, à avoir vécu même cette guerre de l'intérieur aux côtés des Algériens. À l'époque, vous viviez à La Folie, un des nombreux bidonvilles de Nanterre, parmi les travailleurs immigrés algériens. Vous avez participé à la manifestation du 17 octobre 1961.
Alors, je crois que il faut remonter aussi plus loin, en définitive. Parce que moi, j'ai connu la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce que ça comporte. Les bombes, les bombardements, les gens morts, etc. J'avais à l'époque, donc en 40, j'avais 11 ans. Donc on est très marqué par ça. L'occupation, c'est une ambiance, c'est très difficile à expliquer parce que c'est toute une ambiance, c'est tout un cadre. D'abord dans les rues, bon, quand un Allemand passait, bon, vous descendiez du trottoir, c'était l'occupant. Et puis on va parler doucement, on va pas dire n'importe quoi. Vous voyez, j'ai encore dans les oreilles le bruit des bottes allemandes, qui faisait un bruit très particulier. Et au moment de la libération, mes parents habitaient cour de Vincennes, à Paris. Et là, les Allemands avaient mis un canon en enfilade sur le boulevard à la porte de Montreuil, je me souviens. Et déjà, il y avait les FFI qui étaient sur les toits et qui tiraient. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, bon, tous les volets étaient fermés. On allait le matin, je me souviens, à quatre pattes pour voir si les Allemands entendent, enfin pas voir, mais entendre si les Allemands étaient encore là. Et un seul coup, on entendait ces bottes. Et on disait, bon, ils sont encore là. Voyez ? Et puis alors, il y a eu la libération. Et pourquoi je reviens en arrière? C'est parce que certaines choses m'ont marqué. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je suis arrivée après, en définitive, à être avec les Algériens. C'est à la libération. Moi, j'étais scout clandestin. Donc, moi, j'ai été pour le retour des déportés de Buchenwald. Quand vous brancardez du train aux ambulances ou aux camions, vous mesurez ce qu'est un déporté. Toute la souffrance que vous voyez, je sais pas, vous la voyez pas, vous la sentez, vous la ressentez dans votre corps. Donc, bon, moi, c'était mon année de bac. Bon, ben, j'ai loupé le bac parce que j'avais autre chose en tête. Et du coup, j'ai préparé l'entrée aux Beaux-Arts à Paris. Mais pendant que j'étais aux Beaux-Arts, des copains, des copines ont dû me dire, il y a le service civil international. Si vous voulez, à l'époque, on n'appelait pas ça l'humanitaire, mais en fait, c'était le démarrage, je dirais, de l'humanitaire. Et puis, à l'époque, la guerre d'Algérie avait commencé, 54. Il y avait des objecteurs de conscience, des déserteurs. Donc, il y avait tout un courant de pensée qui nous orientait, je dirais, vers des engagements à ce moment-là. Et la guerre d'Algérie, on était en fait tous anticolonialistes. Et justement, les garçons trouvaient une possibilité de refuser de faire la guerre d'Algérie, mais nous, les filles, comme on n'était pas mobilisables, on ne voyait pas très bien ce qu'on pouvait faire pour aussi témoigner.
Christiane Fournier, je voudrais commencer par vous poser une question très simple, chère Christiane Fournier. À cause de la multiplicité des sigles.
ORTF, 12 décembre 1959.
Qu'est-ce que signifie MSI ?
Équipe médico-sociale itinérante.
MSI, des filles comme ça, nous en avons une parmi nous, c'est mademoiselle Michel. Michel, pouvez-vous nous dire comment votre vocation d'MSI s'est dessinée ?
Eh bien, au moment du premier stage à Alger, je me trouvais déjà à Alger moi-même, oui. Et j'ai entendu parler de ça, et je suis allée suivre ce stage.
Et alors, vous avez suivi le stage, et ensuite alors ?
Eh bien, j'ai suivi ce stage pendant un mois, et ensuite, je me suis mise à travailler à Alger Sahel. Et je m'occupais des femmes, oui.
Musulmanes ?
Oui, des femmes exclusivement musulmanes.
Alors, vous aviez des contacts avec elles, vous alliez les voir ?
Oui, je les soignais, je m'occupais de leurs enfants, je m'occupais de les faire aller à l'école, parce qu'elles ne le font jamais, enfin...
Ça ressemble un peu aux fonctions assistantes sociales.
C'est ça, oui.
Mais je crois que c'est très important de dire que les équipes sont formées par une chrétienne et une musulmane, toujours.
Ah, oui.
C'est
oui.
Ça l'idée fondamentale, n'est-ce pas, Michel ?
Alors, vous avez quitté Alger, vous êtes allée où après ?
Eh bien, je suis allée à Nanterre, j'ai des familles, enfin à Nanterre, dans toute la banlieue parisienne.
À Nanterre est un grand problème, parce qu'il y a là un grand centre de... d'arabe et dans des conditions assez difficiles.
Oui, c'est assez difficile.
Je pense, parce qu'elle ne parlera pas d'elle, que sa situation d'MSI à Nanterre a été beaucoup plus difficile que tout ce qu'elle a pu faire en Algérie.
Il semble que c'est plus... C'est ce que vous pensez ?
Oui, je crois, oui.
C'est parce que c'est en métropole que le problème des Algériens est peut-être le plus cruel.
Ah oui.
Voilà, un document qui date de 1959, vous avez compris, avec ces MC. Alors on a évidemment toute l'ambiguïté de l'humanitaire, ces braves dames ou jeunes femmes emmènent les enfants à l'école, ce que les femmes arabes ne font jamais. Il y a un grand centre d'arabes, etc. Dans ces années-là, le malaise était profond dans cette société française qui sentait bien qu'il se passait quelque chose de mal, il y avait un grand malaise. L'indifférence n'était pas forcément ce qu'on a dit qu'elle était par la suite. Et il y avait donc, comme toujours, l'humanitaire, le caritatif, le charitable, utilisé pour faire produire des images valorisantes et avec quelque chose d'assez paternaliste. Et puis il y avait, comme aujourd'hui toujours, la solidarité avec une intention, avec une vision, disons, politique, avec une vision historique, et avec une vision, avec une conscience de ce qui se passait, et pas seulement quelque chose dicté par l'urgence et qui se limite à la seule empathie et à la seule charité. On est avec Monique Hervaux.
Et alors, ensuite, vous êtes partie vivre dans ce qu'on appelait la folie, qui était un bidonville à Nanterre, juste aux portes de Paris. Comment vous êtes arrivé à aller vivre là-bas ?
Alors, comme je vous disais, les filles, nous ne trouvions pas comment nous engager pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, un jour, je vois sur le journal incendie au bidonville de Nanterre, de François, je crois. Et moi, petite parisienne, j'ai dit, mais je connais pas, il y a des bidonvilles, donc, dans la région parisienne. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dit aux copines, eh ben, on va aller par où ? Par deux, par trois, et puis on va aller voir. On est descendu. Il faut vous dire que c'était, à l'époque, 10 000 habitants dans un seul bidonville. Parce qu'à l'époque, il y en avait 15, 17 bidonvilles à Nanterre.
Simplement à Nanterre, 15, 17 bidonvilles.
Celui de la Folie était le plus grand. Donc, on est allé un peu partout. Ils nous ont offert à boire dans les différentes gargotes qu'il y avait. Alors, tout de suite, c'était, on habite des poulaillers, on a, etc. Alors, j'ai discuté un peu avec certains en disant, mais est-ce qu'on pourrait pas un peu améliorer certaines choses, etc. Et c'est là qu'on a décidé de nous mettre sur Nanterre. Moi, j'étais payée comme salariée par le service civil. Donc, on a dit, bon, ben, on va vivre là-dessus. Et du coup, il y a eu une assemblée générale très houleuse où ben, les jeunes que nous étions s'est affrontés, les uns disant, nous, on travaille pour l'indépendance de l'Algérie et rien d'autre. Et les autres disant, on va avoir les RG sur le dos, on ne va plus avoir de subventions, c'est toujours la même chose. Et j'ai dit, ben ça m'est égal, vous partez avec vos subventions, tout ce que vous voulez, on se débrouillera.
Vous avez quitté le service civil alors ?
J'ai quitté le service civil, voilà.
Mais vous étiez financé comment alors ?
Ah ben, financé uniquement, j'avais plus de salaire, et uniquement par ceux qui auraient aimé être de notre équipe en permanence, mais qui avaient leur métier, leur travail, ils ne pouvaient pas. Donc, à ce moment-là, ils donnaient chaque mois leur participation, et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Alors, je dirais, refaire les baraques, etc., c'était parce qu'il y avait une urgence. Mais ce n'était pas ça le fond du problème au départ. Le départ, c'était faire voir qu'il y avait des Français, des Françaises, qui étaient avec eux, qu'ils n'étaient pas isolés complètement et tout seuls, mais que nous, nous participions à cette indépendance, mais on le faisait voir. On le cachait pas. Vous voyez, il y en a certains qui ont bien fait, d'ailleurs, de le cacher pour faire certaines actions. Mais moi, j'avais pris le parti de faire voir. Alors, ça a gêné énormément la police, parce qu'on pouvait voir un certain nombre de choses. Mais comment interdire à des Français d'être parmi eux ? On ne pouvait pas.
Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge. J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai. jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Hong Kong, un port riche aux frontières de deux mondes, et tout autour, des baraques entassées, des bidonvilles. Rio, une capitale ultramoderne avec des buildings et une route qui dessine son tracé futuriste sous un bidonville.
Actualité française, 1er septembre 1963.
C'est là un phénomène général, international. New York ou Moscou, les bidonvilles n'épargnent aucune capitale, Paris pas plus que les autres. À Nanterre ou à la Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes, ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. Si le gîte est précaire, du moins il est bon marché. Et dans ce souci d'économie, on peut trouver une des raisons d'être du bidonville. Une seule fontaine pour toute la triste agglomération. C'est le rendez-vous des enfants. La corvée d'eau remplace souvent l'école. On vit entre soi. Des commerçants ont ici leurs éventaires à la mesure et à l'image de l'habitat. Ainsi vivent dans les conditions de la misère des centaines de familles aux portes de la grande ville. Insouciants, des enfants meublent ce décor sans espoir de leur jeu sans fin.
Comment c'était ce bidonville? Comment c'était conçu? Comment, à quoi ça ressemblait?
Quand je suis arrivée, c'était qu'un amas de planches et de papier goudronné. Papier goudronné, c'est un papier qui est très fin, qui se déchire très facilement, qui est, comme son nom l'indique, avec du goudron pour imperméabiliser. Et puis, c'était des bouts de planches. Ça devait faire une trentaine d'hectares. Oui, c'était une ville dans une ville. Voilà, c'était un... Moi, j'appelle ça un bourg. Autrefois, c'était des champs, des trucs de maraîchers qui avaient été abandonnés. Et j'avais toujours l'impression, quand j'arrivais au bidonville, par exemple, de sauter d'un continent à un autre. Parce que, à part ceux de mon équipe, à part... quelques toubibs, sinon, jamais personne rentrait. Aucun Français veut rentrer.
Ou presque aucun Français ne rentrait dans le bidonville de Nanterre, et pourtant, Monique Hervault le souligne, il était tout à fait visible. Georges Semprin, qui a disparu il y a quelques temps, ne manquait jamais de rappeler qu'à la libération du camp de Buchenwald, il a été libéré de ce camp, et il est entré dans une maison, dans un village voisin, et là, il a constaté que depuis, les fenêtres des habitants du village, eh bien, on avait une vue parfaite sur le camp. Et les gens vivaient là, depuis toujours, sans savoir, disait-il, que... Ce qui se passait dans le camp en face. Il n'avait pas remarqué, il n'avait pas vu, il ne s'était pas posé de questions. C'est un petit peu ce qui s'est passé à l'époque dans ce bidonville de Nanterre. Aujourd'hui, les bidonvilles sont de retour dans la France de M. Guéant, de M. Sarkozy et du Fouquet's. Là, on évoque ceux de la fin des années 50 à Nanterre, en France.
Donc quand vous êtes arrivé en 59, en août 1959, il y avait 10 000 personnes dans le bidonville. Ces familles, elles venaient d'où?
Alors, au départ, c'était tous des gens des Aurès, des montagnards donc, et il y a eu, alors d'autres régions, il y avait des Kabyles. Moi j'ai vu des Algériens arriver ici, là-bas ils mangeaient de l'herbe. Manger des glands, c'était la famine. Il y avait non seulement ça, mais il y avait la guerre. Il y avait des femmes, elles avaient perdu 3, 4, 5 membres de leur famille tués, torturés devant elles. Il y avait les camps de regroupement. Les camps de regroupement, on y meurt. On vous déplace et puis on vous met à tel endroit, on vous encercle avec du fil de fer barbelé et puis quoi? Vous vivez comment? Avec quoi? On avait brûlé toute leur metcha, on avait brûlé leur maison, tout, le bétail, tout ça. Et qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? Ça, les camps de regroupement, c'est aussi quelque chose dont on a très très peu parlé. Et ça, ça a été horrible. Parce qu'on vidait des régions entières et on les mettait dans des camps. Et là, il en mourait à l'appel. Non seulement la famine, mais par manque de médecins, par manque de tas de choses. Et je sais qu'à une époque, des hommes qui n'avaient pas leur famille ici m'ont demandé que je fasse des faux papiers de travail parce qu'ils n'osaient pas le demander à leur patron de peur de se faire mettre à la porte pour aller en Algérie, essayer de faire sortir, ce qui n'était pas facile, leur famille pour les ramener ici. Je dirais, le bidonville, c'est la survie. Mais là, c'est même plus la survie. C'est on va mourir. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'un certain nombre ont essayé de s'échapper de ces camps et de pouvoir venir ici. Et puis alors, il y a un autre aspect aussi, c'est que vous aviez des hommes, d'ailleurs, les hommes m'ont dit, la guerre, elle n'a pas commencé en 54, elle a commencé en 45, au moment des affaires de Sétif et de Guelma.
À ce moment-là, c'est le moment où il y a eu un massacre de 45 000 personnes, c'est ça, par l'armée française?
Et en fait, il y en avait dans le bidonville de la Folie qui avait commencé déjà le maquis en 45. Et alors, il y en avait qui faisaient, pour le FLN, des va-et-vient. Je me dis aujourd'hui, avec 60 ans de différence, puisque le bidonville de la Folie a commencé en 50. 50, rasé 21 ans après. Je me dis, par tous les bouts, on n'a fait que du sale boulot. Là-bas, ici, on les a esquintés.
Nous avons poussé aussi la porte du bistrot à l'heure de l'apéritif et des rêves, des bons et des mauvais.
5 colonnes à la une, mars 1960.
L'un de ces hommes est un mécanicien qualifié, mais il ne trouve de l'embauche que comme manœuvre quand il en trouve. Pourquoi?
Est-ce que vous croyez que d'autres camarades que vous, parce qu'ils sont algériens, sont défavorisés dans le travail?
Oui. Pourquoi? Je vais demander un travail. Oh, on me dit en Algérie, on n'en prend pas la mécanique, parce que certains d'autres prennent l'Algérie pour un gourde. Donc on n'apprend pas la mécanique. Ils le savent qu'en Algérie, il y a des voitures, il y a des garages et tout. Mais pour vous refuser un embauche, on vous dit ça.
Et pour trouver un logement, vous avez trouvé facilement?
Non, pas facilement. J'en ai jamais trouvé un. J'en ai trouvé, mais quand je me présente et avec la couleur que j'ai, on me la refuse.
Parce que vous êtes algérien?
Oui, c'est ça.
Alors, où logez-vous finalement?
Je me loge toujours avec mes compatriotes. J'accepte les conditions que...
Au bidonville, ici?
Oui. En au hôtel. Bidonville, il y a même des garnis où ils sont à 4-5. Et tout ça, c'est pas bien.
À partir de 61... Il y a une répression qui s'accélère réellement. Il y a la police qui descend de plus en plus souvent, il y a de plus en plus de rafles.
Tout ce qui s'est passé le 17 octobre, dont on parle, et heureusement qu'on en parle du 17 octobre, mais tout ça, ça faisait en gros 3 mois que ça se passait. Les Algériens, et y compris des Marocains, ont été jetés dans la Seine. Avant. Et ça, je vous dis, à partir du mois de juin et ça n'a fait que s'amplifier. Les arrestations étaient de plus en plus nombreuses. On a eu des descentes et nous avions non seulement la police, les militaires, mais nous avions les harkis aussi. Il faut se dire que quand il y avait ces descentes, c'était de l'ordre de 400 qui descendaient. C'était ce qu'on appelait des ratissages, comme en Algérie, la même chose. Il y avait, moi j'appelais ça à l'époque les fusées éclairantes, ça éclairait complètement le bidonville. C'était comme on voyait comme en plein jour. C'était des projecteurs spéciaux et ils arrivaient, ils sillonnaient dans les ruelles, ils enfonçaient les portes des baraques, ils rentraient. Moi, j'ai vu de mes yeux des berceaux d'enfants où, à grands couteaux, ils ouvraient les matelas cherchant des armes. Ils vidaient, je l'ai vu aussi ça de mes yeux, vidant des poêles qui étaient en train de chauffer. Ils vidaient tout sur le ciment, les boulets rougeoyants. Il y a eu aussi des descentes avec des bergers allemands. Et j'entends encore le souffle derrière les parois des baraques, le souffle de ces chiens. Et je suis témoin de tout ça dans la mesure où, à ce moment-là, le FLN a demandé aux filles de mon équipe de venir dormir dans des familles du bidonville. Parce que, par exemple, une femme, elle avait son mari, son oncle, son frère, tous les hommes avaient été arrêtés. Elle était toute seule avec un ou deux gamins, mais elle était toute seule. Et après, dès que c'est un peu calme, on appelle au travers de la cloison de la voisine, dit « Ton voisin, est-ce qu'il y a un tel Atman, est-ce qu'il est toujours là ou pas qui a été emmené qui ?» Et oui, ça a été dingue. Et toute la nuit comme ça. Donc c'était un état de guerre, c'était la guerre d'Algérie qui était dans Nanterre, mais dans un périmètre restreint. Mais là, c'était une prison où on pouvait faire tout ce qu'on voulait, torturer, où on pouvait arrêter, où on pouvait tabasser, où on pouvait empêcher de vivre, où on pouvait faire n'importe quoi. C'est pas tellement, je pense, trouver des armes. Il y en avait, c'est vrai. Mais je pense que c'était beaucoup plus casser, briser une population. Elle doit être soumise. Et tous les moyens à ce moment-là sont bons. C'était, au fond, je pense que c'était qu'une suite de ce qui se passait en Algérie. À plus ou moins grande échelle, mais c'était les mêmes méthodes. C'était la pacification, ce n'est que des mots, parce que derrière ça, c'était la torture. Et au commissariat de Puteaux, les caves du commissariat étaient remplies de sang.
À qui les flics ont cassé la gueule parmi vous? Levez le doigt. Et à qui ils n'ont pas cassé la gueule? Il y en a? Combien il y en a?
Un seul.
Octobre à Paris, 1962.
Il n'y a que deux. Ils ne sont pas algériens. C'est des Marocains. Et la police ne les cherche pas.
Ils sont venus, ils m'ont trouvé déjà couché à 7h30 du soir, du moment que je commence à 4h du matin mon boulot. Alors ils m'ont demandé aussi qu'il est en pistolet. J'ai dit j'en ai pas. Ils m'ont dit, si t'en as, j'ai dit, vous n'avez qu'à chercher. Après, ils m'ont fait descendre du lit. Ils m'ont tabassé jusqu'à presque à moitié mort. J'ai resté une semaine sans travailler. Puis ils m'ont déchiré, ils m'ont cassé ma valise, ils m'ont déchiré un costume tout, que j'ai acheté tout neuf. Puis des chemises, ils m'ont foutu tous mes papiers d'assurance, tout.
C'est les inspecteurs. Ils arrivent tous les matins avec leur crosse de mitraillette et leur crosse de pistolet. Continuent tout pour prendre le petit déjeuner au café. Ils nous lancent les tasses de café sur nos figures et puis ils commencent avec des crosses. Tous les matins, s'il n'y a pas des inspecteurs, il y aura toujours des harkis. À 3h du matin, ils arrivent, ils encerclent les bidonvilles et puis ils commencent à casser les portes. Nous sommes tous des ouvriers et nous cherchons qu'à gagner notre pain.
Monique Hervault, solidaire et engagée, la suite demain. C'est un reportage de Charlotte Perry. Merci à tous. À noter que le collectif Non à Bijard aux Invalides, vous savez qu'il est question que les cendres de Marcel Bijard aillent aux Invalides, eh bien, il y a un collectif qui proteste contre ce transfert des cendres et qui organise une soirée pour protester contre cela. Un débat sera précédé de la projection du film La Bataille d'Alger ce soir à Paris au cinéma La Clé, 21 rue de La Clé, dans le 5e arrondissement de Paris, au métro Sancier de Banton. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Émission d'Abbas si j'y suis et sur le site la-ba.org ainsi que sur notre page Facebook. La technique aujourd'hui, Éric Morin et Julien Chabassu, Bertrand Chomton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. A signalé un numéro de Manière de voir, édité par Le Monde Diplomatique, consacré à l'histoire de la décolonisation de l'Algérie. 54-2012, histoire et espérance. Il se pourrait bien, effectivement, que cette mémoire algérienne s'invite dans les semaines à venir dans la campagne pub.
2 ans après le séisme en Haïti, France Inter et l'association Donne ton cœur à Haïti lancent un appel aux dons pour la construction de la première école gratuite à Savanette et la réhabilitation d'un orphelinat à Mirbalais. Apportez-leur votre soutien en aidant ces enfants sinistrés à retrouver un toit et un enseignement. Envoyez vos dons à la Fondation Architecte de l'Urgence. Plus d'informations, franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la suite de la Bassugie Suite. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Un journaliste occidental a été tué aujourd'hui à Homs, dans le centre de la Syrie. Tué selon un témoin alors qu'il effectuait un reportage dans ce haut lieu de la contestation à Bachar el-Assad. Un obus est tombé sur le groupe de journalistes avec lequel il était. On ne connaît pas sa nationalité. Le ministère de l'information syrien lui indique ne pas être au courant de cette information. Au 3e jour de la grève générale contre la hausse des prix du carburant au Nigeria, les 2 syndicats de travailleurs du pays premier producteur de brut en Afrique menacent aujourd'hui d'interrompre la production de pétrole. La grève générale paralyse depuis lundi le Nigeria, mais pour l'instant, elle n'a pas affecté la production de pétrole. Le Nigeria produit près de 2,5 millions de barils par jour. La Commission européenne a décidé aujourd'hui de hausser le ton face au gouvernement hongrois de Viktor Orban. Elle menace de traîner Budapest en justice si rien n'est fait pour modifier les lois controversées sur l'indépendance de la justice et de la Banque centrale. Si la Commission est entendue par les États de l'Union européenne, la Hongrie risque de se voir privée de plus d'1 milliard d'euros d'aide. Cécile Duflot, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, les surnomme nos punks à nous. Les 10 sénateurs verts ont formé aujourd'hui officiellement leur groupe parlementaire au Sénat. Le président, comme prévu, est Vincent Placé. Le groupe écologiste a adressé une lettre au président PS de la Haute Assemblée pour lui rappeler les grandes orientations de l'écologie politique. Leur projet, transformer le Sénat en chambre des régions. Dans ses voeux aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, cette fois Bernard Accoyer, a fustigé lui la gauche. Si elle l'emporte l'élection présidentielle, cela entraînera, dit-il, des conséquences économiques et sociales pour la France qui pourraient être comparables à une guerre. La gravité de la situation exige un cap et ne saurait s'accommoder ni du flou, ni de valses hésitations sur des sujets essentiels, a déclaré Bernard Accoyer. Concernant la cacophonie au PS sur la question de l'aménagement du quotient familial, François Bayrou, le candidat du Modem, a lui dénoncé aujourd'hui le cafouillage cambriolages et le patouillage au PS. Tous les jours, le Parti Socialiste a des idées qui sont immédiatement retirées. Ça ne contribue pas, selon François Bayrou, à la confiance dont le pays a besoin. Hier, François Hollande a assuré qu'il n'entendait pas supprimer le quotient familial, mais moduler cet avantage fiscal pour les familles, corrigeant ainsi les déclarations de son directeur de la communication, Manuel Valls. François Hollande qui a inauguré ce matin son QG de campagne, surnommé le 59, car situé au 59 rue de Ségur, près de l'Assemblée à Paris. À une centaine de jours de premier tour de l'élection présidentielle, le candidat socialiste a donné le ton autour de son slogan « Le changement, c'est maintenant ». Et il se donne 100 jours pour redonner espoir aux Français. Il a demandé à ses partisans d'être exemplaires dans leur conduite dans un combat qui sera rude. C'est un indicateur du marché du travail. L'emploi intérim en France était en légère baisse au mois de novembre. Il a représenté 643 200 postes, soit 4 100 de moins par rapport au mois d'octobre, selon les chiffres de Pôle emploi aujourd'hui. Sur un an, l'intérim a baissé de 2,7% en France. Les femmes sont les plus touchées par ce repli. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les matins, à partir de 10h, Service public, Guillaume Herner.
Les jeunes ne sont pas des gens comme vous et moi. Les jeunes viennent de Mars et les vieux de Vénus. Il faudrait au moins un Jean Lévi-Strauss pour explorer cette tribu étrange, celle des 18-30 ans baptisée Génération Y. Essayons donc de comprendre cette peuplade avant qu'ils ne deviennent vieux. J'attends vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 ou bien sur le site internet de France Inter, franceinter.fr.
Service public, demain sur France Inter, à partir de 10h. France Inter. La différence.
Avant de retrouver Frédéric Lodéon et son carrefour de Lodéon dans le cadre du deuxième anniversaire du séisme en Haïti, je vous propose d'écouter un témoignage dans le cadre d'une opération spéciale de Radio France.
Haïti.
Lala.
Haïti.
Tremblement de terre.
Deux ans après.
Deux ans vieux pour moi, ça c'est triste.
France Inter n'oublie pas.
Tout Haïtien n'est pas nécessairement pris au sérieux comme un citoyen. Et la formation du citoyen, bien sûr, c'est par l'école.
Lainé Curbon, sociologue.
Et la majorité des Haïtiens n'accèdent pas jusqu'à présent à l'école, à l'éducation formelle. Donc c'est un problème qui est le problème clé de l'État haïtien depuis sa naissance jusqu'à nos jours.
Avant le séisme, déjà 1 million d'enfants haïtiens échappaient au système scolaire. Orphelins, enfants des rues, paysans avant l'heure, ils sont encore plus nombreux depuis 2 ans. Dans un pays où un tiers de la population a moins de 15 ans, l'éducation est une question cruciale. Didier Lebray, ambassadeur de France à Port-au-Prince, assure que le séisme a provoqué une prise de conscience des autorités haïtiennes. Elles veulent faire de l'éducation pour tous une priorité.
La réalité, c'est qu'à la rentrée scolaire, il y a eu 200 000 enfants qui n'ont jamais été scolarisés, qui ont pu avoir accès pour la première fois à l'école. Et que c'est pas un hasard si aujourd'hui l'accent est mis de manière consensuelle sur l'éducation. Vous pouvez pas sortir un pays de la pauvreté avec un adulte sur deux analphabète et un enfant sur trois qui échappe à la scolarité.
Beaucoup d'entre vous ont déjà donné pour Haïti, mais ce petit bout d'île a encore besoin d'aide. Grâce à vos dons, France Inter pourra financer la construction d'une école à Savanette et d'un orphelinat à Mirebalais.
Allez ! C'est ça, c'est la vie. Il y a des hauts et des bas.
À la veille du deuxième anniversaire du tremblement de terre en Haïti, France Inter soutient plus que jamais l'appel aux dons de la Fondation Architecte de l'Urgence.
Aujourd'hui, je parle quoi ?
Pour faire vos dons, rendez-vous sur franceinter.fr. Et pour l'instant, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lodéon pour Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, à 16h30, je serai avec Jean-Paul Scarpita. Jean-Paul Scarpita qui est le directeur de l'Orchestre National de Montpellier et de l'Opéra. Donc, grâce à France Bleu Héros, nous sommes en duplex. Et ça va être, je pense, comme s'il était dans le studio. Mais il s'occupe de choses très importantes en ce moment, notamment de la venue de Riccardo Muti, le très grand chef d'orchestre. Et pour commencer, Piano Campus, c'est une manifestation qui fête ses 10 ans déjà. Et c'est Pascal Escande qui s'en occupe, pianiste, professeur lui-même, et puis patron du Festival d'Auvers-sur-Oise. Donc voilà, plein de manifestations, et elles sont gratuites. En temps de crise, évidemment, c'est toujours très agréable à entendre. Concert gratuit à Pontoise, Cergy Pontoise, Vauréal, Osny aussi. Et ça commence le 14 janvier au Dôme de Pontoise, c'est place de l'Hôtel de Ville, facile à trouver. 20h30, une magnifique pianiste qui a gagné 3 prix en 2008. Le prix, vraiment le Grand Prix Piano au Campus d'Or, le prix de l'orchestre et le prix du public. Et elle va revenir, Lilith Grigorian, qui va donner un concert Mozart, Schubert, Rachmaninov, Khatchaturian. Et je vous propose de l'entendre, cette grande lauréate devenue virtuose à part entière, dans un extrait des Variations sérieuses de Félix Mendelssohn. Félix Mendelssohn, la conclusion des Variations sérieuses par Lilith Grigorian, grande lauréate de Piano Campus. Elle sera donc samedi 14 janvier à Pontoise, au Dôme, place de l'Hôtel de Ville à 20h30. Il y aura le 26 janvier Sania Bisiak, autre magnifique pianiste. Et elle a été lauréate en 2011, là, tout récemment. Et le 2 février, il y aura le Spiritango Quartet de Astor Piazzolla à Carlos Gardel. Donc là, vraiment, la direction est bien campée. Tristan Pfaff, pianiste superbe aussi au Forum des Arts, ce sera, je lis Osni, mais je devrais peut-être dire Oni plutôt, parce qu'on dit Rony sous bois par exemple, donc à Oni, 20h30 rue Aristide Briand, et ce sera le 4 février, etc., etc., avec le 8 encore Samson Tsoï, le 9 Elisaveta Ivanova, que des jeunes artistes tout à fait brillants dans le cadre de Piano Campus. Et pour s'y retrouver, ben, il y a évidemment Internet, comme toujours, et heureusement, maintenant, piano-campus.com, piano-campus.com, et puis numéro de téléphone pour les plus anciens, peut-être, 01 34 35 18 53 01 34 35 18 53. Bravo, bon anniversaire à Piano Campus. Et puis autour de tout ça, des animations, des masterclass, des rencontres pour les scolaires aussi. Et puis des disques dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Ça c'est réservé aux lycéens. Bravo, bravo, mesdames et messieurs. Alors, nouveauté, heureusement, là, c'est la rentrée du disque aussi. Et par exemple, voici Haydn, ça n'est pas étonnant, de plus en plus estimé au disque et au concert aussi, et le remarquable violoniste Carmignola qui nous offre les concertos de ce grand maître avec l'orchestre des Champs-Élysées. Voici le presto du premier concerto en ut majeur de Joseph Haydn.